Chapitre 51. La nuit, les rues de Tanimura grouillaient presque autant de monde que le jour. Les petits feux de cuisson pour les brochettes brûlaient encore et les colporteurs beuglaient toujours leur boniment. Des ivrognes appelaient Richard pour qu'il vienne jouer au dé avec eux. Aussitôt qu'ils aperçurent son collier, une foule de gens lui proposèrent des emplettes mirifiques, de la nourriture, une théorie de colifichet et des femmes. Il voulut doucher leur enthousiasme en déclarant qu'il n'avait pas d'argent. Hilar, ses interlocuteurs lui assurèrent que le palais réglerait rubis sur l'ongle tout ce qu'il voudrait s'offrir. Il haussa les épaules et continua son chemin. Des filles à peine vêtues se collèrent à lui en gloussant, leurs doigts agiles tentant de s'introduire dans ses poches. À l'oreille, elles lui soufflèrent des propositions érotiques qui le laissèrent sans voix. Les écarter ne suffisant pas à les décourager, il les foudroya du regard. L'effet fut immédiat. Soulagé, Richard sortit de la cité et s'enfonça dans la campagne où il respira aussitôt mieux. Il était en permanence conscient du collier autour de son cou. Que se passerait-il s'il s'aventurait trop loin? Selon ce que Pacha lui avait dit, ça ne risquait pas de se produire ce soir car il n'avait pas l'intention de marcher beaucoup. Mais elle pouvait s'être trompée et il n'avait aucune envie de sentir la chaîne se tendre brusquement pour le ramener dans sa niche. Au sommet d'une butte, il sonda le paysage et aperçut ce qu'il cherchait, le bois de Hagen. Furieux d'être prisonnier, angoissé par ce qu'il attendait et en mal d'amour pour Kalan, il avait besoin de se défouler comme on boxe un mur quand on est en colère, et ces bois lui semblaient un exutoire très prometteur. Il s'en détourna pourtant et entreprit de ramasser des brindilles et des branches pour allumer un feu. Quand il eut bien pris, Richard sortit une casserole de son paquetage et la mit à chauffer. Un bon mélange de riz et de haricots lui calerait l'estomac. En attendant que ce soit cuit, il grignota le petit morceau de bannock qui lui restait. Assis sur un rocher, il contempla de nouveau le bois de Hagen. De temps en temps, il surveillait le ciel, pressé d'y voir apparaître une silhouette familière. Soudain, il entendit un doux battement dans son dos et éclata de rire quand des bras couverts de fourrure le ceinturèrent et le firent basculer sur le sol. Gratch essaya d'envelopper son adversaire avec ses quatre membres et ses ailes. Richard lui chatouilla les côtes, le forçant à éclater de rire à son tour. Le combat amical se termina par une victoire du Garn qui s'empressa de serrer contre lui son compagnon humain.
Gratch Richard.
Le sourcier rendit son étreinte au jeune prédateur.
« Je t'aime aussi, Gratch !»
Le garde plaça son museau sous le nez de Richard et lâcha un petit rire guilleret.
« Gratch !»
s'exclama le jeune homme en pinçant les narines.
« Ton haleine sent très fort !»
Il se rassit son ami sur les genoux.
« Tu as attrapé une proie tout seul ?»
Le garde hocha vigoureusement la tête.
« Bravo, mon petit vieux. Et tu as réussi ça sans mouche à sang? Qu'as-tu attrapé ?»
Gratch détourna le regard, les oreilles aplaties.
« Une tortue ?»
L'animal secoua la tête, moqueur.
« Un daim ?»
Là, le sourcier eut droit à un grognement dépité.
« Un lapin ?»
Le garde secoua la tête. Il semblait s'amuser comme un petit fou.
« J'abandonne. Qu'as-tu mangé ?»
Gratch se couvrit les yeux avec les pattes et regarda entre ses griffes écartées.
« Un raton laveur ?»
Le jeune monstre sourit de tous ses crocs, leva les yeux au ciel et rugit en se frappant la poitrine.
« Bien joué, mon vieux. Encore bravo !»
Gratch tenta de renverser Richard sur le sol pour une nouvelle séance de lutte, mais le jeune homme ne se laissa pas convaincre de jouer. Faisant signe à l'animal de se calmer, il vérifia la cuisson de sa tambouille et retira la casserole du feu. Il était soulagé que le garde sache enfin subvenir à ses propres besoins. Ainsi, il aurait une chance de survivre si les choses tournaient mal pour son protecteur.
« Tu en veux un peu ?»
Gratch se pencha prudemment et renifla la casserole. S'étant brûlé une fois, il faisait désormais très attention quand son ami cuisinait. Plissant le museau, il grogna et roula comiquement des épaules, histoire de signifier que ça ne lui disait trop rien, mais qu'il s'en contenterait si rien de mieux ne se présentait. Richard lui servit une portion dans le bol qu'il lui avait affecté.
Souffle dessus, c'est chaud.
Le garde obéit. Quand il jugea avoir assez refroidi son festin, il tenta de lécher le riz et les haricots. L'opération se révélant délicate, il finit par se coucher sur le dos et se vida le bol dans la gueule. Il se releva, battit des ailes et tendit le récipient à Richard avec un gémissement à faire fondre les pierres.
« Désolé, il n'y en a plus. »
Gratch tendit une griffe vers le bol du sourcier et le tapota doucement.
« Non, ça c'est mon dîner !»
fit Richard en lui tournant le dos. Le garde se résigna à attendre que son ami ait fini de manger. Quand ce fut fait, Richard releva les genoux, les entoura de ses bras et recommença à contempler Tanimura. Gratch s'assit et essaya d'imiter sa position. Le jeune homme sortit de sa poche la mèche de cheveux de Kalan. Le regard noir, il la fit tourner entre ses doigts à la lumière de la lune. Le garde tendit une griffe curieuse.
« Non, » dit Richard en le poussant de l'épaule, « tu peux toucher, mais doucement. »
Du bout de la griffe, Gratch tâta délicatement la relique, puis pensif, il passa la même griffe dans les cheveux de son compagnon. Lui caressant ensuite la joue, il écrasa la larme qui y roulait. Richard renifla et remit la mèche à sa place. Le garde lui entoura les épaules d'un bras et posa sa grosse tête contre lui. Le jeune homme l'enlaça aussi et ils contemplèrent le paysage nocturne en silence. Décidant qu'il était temps de dormir, Richard repéra une petite étendue d'herbe épaisse où il déroula sa couverture. Le garde se blottit contre lui et ils s'endormirent comme des masses. Richard se réveilla une heure avant l'aube. Il s'assit et s'étira. Fidèle à ses habitudes, Gratch l'imita, ajoutant des bruissements d'ailes au bâillement de son ami. Le sourcier se frotta les yeux. Le soleil se lèverait bientôt, il était temps d'agir.
« Gratch, fit-il, il faut que tu m'écoutes attentivement. J'ai des choses très importantes à te dire, ouvre grand tes oreilles. »
Le garde plissa le front concentré au maximum.
« Tu vois cet endroit ?»
demanda Richard en désignant Tanimura.
« Celui où brillent toutes ces lumières. »
Il se tapota la poitrine, puis tendit de nouveau un bras vers la cité.
« Je vais y vivre un moment. Comprends-tu ? Mais je ne veux pas que tu viennes me voir. Il ne faut pas t'en approcher, parce que ce serait dangereux pour toi. C'est moi qui viendrai te rejoindre ici. Tu as saisi ?»
Le garde réfléchit, puis hocha la tête.
« Donc tu n'approches pas de la ville ?»
Tu vois le fleuve en bas?
Tu sais ce que c'est puisque je t'ai déjà montré de l'eau. Tu devras rester sur cette berge, là où nous sommes. Pigé?
Le sourcier voulait éviter que Gratch s'en prenne aux animaux de ferme sur l'autre rive, car ça lui attirerait sûrement des ennuis.
Le garde grogna pour signifier qu'il avait compris. Encore une chose, si tu vois des gens comme moi, ne les mange surtout pas.
Il brandit un index devant le museau du monstre.
Les humains ne sont pas de la nourriture. Alors pas question de t'en régaler. C'est entendu ? L'air déçu, Gratch grogna de nouveau.
Richard lui passa un bras autour des épaules et l'orienta face au bois de Hagen.
Continue d'écouter, parce que c'est toujours très important. Tu vois ces bois ?
Le petit monstre lâcha un grognement menaçant. Il dévoila ses crocs et ses yeux verts brillèrent plus intensément.
Là non plus, pas question d'y aller. Je veux que tu en restes loin, et je ne plaisante pas.
Le garde ne l'écoutant plus, Richard saisit sa fourrure à pleine main et la secoua.
« C'est interdit, compris ?»
Un hochement de tête apprit au sourcier que le message était passé.
« Je vais devoir y aller, mais tu ne me suivras pas, c'est dangereux pour toi. »
En gémissant, Gratch passa un bras autour de la taille de son ami et le tira en arrière.
« Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai mon épée. Tu te souviens, ma grande lame, elle me protégera, mais toi, tu ne peux pas venir. »
Richard espéra qu'il ne se trompait pas au sujet de l'épée de vérité.
Selon Verna, une magie maléfique régnait sur le bois de Hagen, mais il n'avait pas le choix, c'était le seul plan qui lui fut venu à l'esprit.
Richard serra le garde contre lui.
« Va chasser, et ne te ronge pas les sangs pour moi. Je reviendrai te voir, et on se bagarrera, d'accord ?»
Gratch rayonna à la mention d'une bonne séance de lutte. Plein d'espoir, il tira sur le bras du sourcier.
« Pas maintenant, mon vieux, j'ai autre chose à faire, mais je reviendrai bientôt et on s'amusera. »
Le garde serra l'humain dans ses bras pour lui dire au revoir. Après avoir ramassé ses affaires, Richard le salua de la main et disparut dans l'obscurité. Il marcha durant une heure. Pour que son plan fonctionne, il devrait s'enfoncer assez loin dans le bois de Hagen. La végétation très dense ne lui facilitait pas la tâche, mais il n'avait pas passé sa vie dans la nature pour se laisser arrêter par ce genre d'obstacle, ni par les splatchs des créatures qui plongeaient dans la vase en l'entendant approcher. Couvert de sueur et le souffle court, il atteignit une petite clairière assez surélevée pour que le sol soit sec. De là, il apercevait un carré de ciel où brillaient encore quelques rares étoiles. Ne repérant ni rocher ni souche, il s'assit en tailleur sur un tapis d'herbe, son sac posé près de lui. Le souvenir des bois de Heartland lui serra le cœur. Il avait tellement hâte de rentrer chez lui et de retrouver ses amis, Chase et Zed. Bien qu'il eût grandi près de lui, il avait toujours ignoré que Zed était son grand-père. Mais jamais douté de son affection. La seule chose qui comptait. Quelle différence faisaient les liens du sang? Il n'aurait pas pu aimer Zed davantage, ni être aimé davantage que lui. Il ne s'était plus parlé depuis si longtemps. Au palais du peuple, il n'avait pas eu le temps d'aller au fond des choses. Richard avait eu tort de partir si vite. À présent, il regrettait de ne pas pouvoir bénéficier des conseils et de la compréhension du vieux sorcier. Callan irait-elle vraiment voir Zed? Maintenant qu'elle s'était débarrassée de lui, au nom de quoi se donnerait-elle tant de mal? Callan lui manquait tellement. Son sourire, ses splendides yeux verts, le son de sa voix, son intelligence et son courage. Sans elle, le monde n'avait plus de couleur, de parfum ou de douceur. Il aurait donné sa vie à cet instant pour pouvoir la serrer 5 minutes dans ses bras. Mais elle s'était débarrassée de lui, consciente qu'il était un monstre. Par amour, il lui avait rendu sa liberté, une sage décision, car il n'était pas digne d'elle. Sans même s'en apercevoir, il chercha à toucher son Han comme Verna le lui avait appris. Malgré des échecs répétés, il trouvait plaisant cet exercice qui lui apportait une grande paix intérieure. En ce moment, c'était un luxe appréciable. Il imagina l'épée de vérité flottant devant ses yeux. Une image si détaillée qu'il aurait pu tendre une main pour en saisir la garde. Sans ouvrir les yeux ni émerger de sa méditation, il dégaina la véritable lame. Pourquoi? Il aurait été incapable de le dire, mais ça lui semblait la chose à faire. La note métallique retentit, annonçant l'intrusion de l'arme magique dans le bois de Hagen. Il la posa sur ses genoux. À présent, la magie dansait avec lui au cœur de sa quiétude. Si un danger se présentait, il était prêt. Il ne lui restait plus qu'à attendre. Ça prendrait du temps, mais elle viendrait, oui, dès qu'elle saurait où il était, elle le rejoindrait. Autour de lui, comme s'il n'était pas là, la nuit bruissait de vie. Concentré sur l'image de l'épée, il entendait vaguement le bourdonnement des insectes, les coassements des grenouilles et les craquements des souris et des campagnols qui s'ébattaient entre les brindilles sèches. Parfois, un battement d'ailes semait la panique parmi les rongeurs, un cri aigu lui apprit qu'un hibou venait d'attraper son repas. Soudain, alors qu'il contemplait l'image de l'épée dans un état de rêve éveillé, tous les bruits moururent. En esprit, Richard vit la silhouette noire derrière lui. Il se leva d'un bond, l'épée fendit l'air et manqua de peu le monstre qui avait reculé juste à temps. Richard fut étrangement excité d'avoir raté son coup. Le combat allait durer un peu, lui donnant l'occasion de danser avec les esprits et de défouler sa rage. Le monstre se déplaçait comme une cape agitée par le vent, sombre comme la mort et tout aussi rapide. Les deux adversaires évoluèrent gracieusement dans la clairière, l'un évitant le tranchant de la lame et l'autre celui des griffes acérées. Immergé dans la magie de son arme, Richard se laissa guider par les esprits de ses prédécesseurs et eut le sentiment de suivre le combat comme un spectateur certain de son issue. Il avait tellement soif d'apprendre la danse.
Enseignez-moi. Comme un flot de souvenirs, la connaissance se déversa dans son esprit, maillon vital de la chaîne qui le liait aux anciens sourciers. Il n'était plus l'esclave de l'arme, de la magie et des spectres, mais leur maître. La lame, le pouvoir, les fantômes et lui ne faisaient plus qu'un. Le monstre noir chargea. Le moment était venu. À une vitesse folle, la lame coupa le monstre en deux et un geyser de sang arrosa le sol et les troncs d'arbres. Un cri atroce retentit. Puis, le silence revint. Haletant, Richard se sentit presque désolé que ce soit fini. Presque. Il avait dansé avec la magie et avec les morts. Au cours de ce ballet sanglant, il avait trouvé l'exutoire qu'il cherchait, pas seulement à sa frustration, mais au sombre désir tapis au fond de lui et qu'il ne comprenait pas. Le soleil était levé depuis 2 heures quand il entendit des bruits de pas. La femme se frayait un chemin parmi les broussailles, écartant sans ménagement les branches qui s'accrochaient à ses vêtements. Enfin, elle émergea dans la clairière.
« Richard !»
cria-t-elle.
« Bonjour, Pacha !» dit le sourcier en ouvrant les yeux. « Une magnifique journée, n'est-ce pas ?»
Son chemisier trempé de sueur, la jupe soulevée d'une main, la novice avait des brindilles plein les cheveux.
« Richard, tu dois partir d'ici tout de suite, c'est le bois de Hagen !»«
Je sais, sœur Verna me l'a dit. Un endroit intéressant, j'aime bien. »
Pacha cligna des yeux de stupéfaction.
« Intéressant ? C'est un piège mortel. Qu'es-tu venu faire ici ?»«
Vous attendre, évidemment. »«
Quelque chose pue ?»
dit Pacha en regardant autour d'elle. Elle s'accroupit devant le sourcier et lui sourit comme à un enfant ou à un fou.
« Bon, tu as fait un petit tour dans la forêt, tu t'es bien amusé. À présent, donne-moi la main et filons d'ici. »
« Je ne bougerai pas tant que Verna n'aura pas récupéré son titre de sœur. »«
Quoi ?»
Richard se leva, épée au poing.
« Je reste ici tant qu'on ne lui rendra pas son grade et ses prérogatives. Le palais devra choisir ce qui importe le plus, ma vie ou la disgrâce de Verna. »«
Une seule personne peut lever la punition, »
souffla Pacha.
« Sœur Maren. »
« Je sais. Vous irez la voir et lui direz de me rejoindre ici, en personne. » Elle devra me jurer que la sanction est effacée et accepter mes conditions.
« Tu es fou. Sœur Maren ne t'obéira jamais. »«
Eh bien, je ne bougerai pas d'un pouce tant qu'elle fera sa mauvaise tête. »«
Richard, rentrons ensemble. J'irai plaider la cause de Verna devant Sœur Maren, mais ça ne vaut pas la peine de sacrifier ta vie. »«
Ça, c'est une question qui me regarde. »«
Tu agis comme un idiot. Ce bois est dangereux et tu es sous ma responsabilité. Je t'interdis de rester ici. » Si tu t'obstines, j'utiliserai le Radahan pour te forcer à partir.
Richard serra un peu plus fort la garde de son épée.
Verna a été punie à cause de moi. Je trouve ça insupportable, donc je suis prêt à tout pour que ça change, y compris à mourir. Si vous recourez au collier, je résisterai de toutes mes forces. J'ignore qui gagnera, mais une chose est sûre, l'un de nous y laissera la vie. Si c'est vous, ça marquera le début de la guerre, et si c'est moi, vous ne deviendrez pas de sitôt une sœur de la lumière. Sœur Verna restera une novice, mais ça ne sera pas pire pour elle que maintenant. Moi, j'aurai la satisfaction d'avoir fait de mon mieux.
Tu serais prêt à mourir pour une bêtise pareille?
Oui, parce que c'est vital à mes yeux. Il serait injuste que sœur Verna paie pour mes fautes.
Mais...
commença Pacha hésitante.
« Sœur Maren est l'intendante des novices. Si je vais lui ordonner de modifier sa décision, elle m'écorchera vive. »«
Le fauteur de trouble, c'est moi. Vous n'êtes que la messagère. Qu'elle vous punisse et je prendrai racine dans ce bois jusqu'à ce que sœur Verna et vous soyez traités équitablement. »« Si sœur Maren veut déclencher une guerre, libre à elle. Mais si la trêve lui tient à cœur, elle devra venir ici et se plier à mes exigences. »«
Richard !» Si tu es toujours ici au coucher du soleil, tu mourras.
Raison de plus pour vous dépêcher, Pacha.
La novice blêmit.
Il me faudra des heures pour entrer en ville. En admettant que j'arrive à convaincre sœur Maren, nous risquons d'arriver trop tard.
Pourquoi n'êtes-vous pas venu à cheval?
Quand j'ai compris que tu étais ici, je suis parti sans réfléchir. Te sachant en danger, j'ai réagi d'instinct.
C'était une erreur, Pacha. Il fallait penser avant d'agir. Ça vous servira de leçon pour la prochaine fois.
Richard, ce n'est pas le moment de...
Vous avez raison. Alors dépêchez-vous. Sinon, votre sujet chéri sera toujours assis au même endroit au crépuscule.
Ce n'est pas un jeu,
explosa Pacha.
Tu ne comprends pas, ce bois est vraiment dangereux.
Je sais, fit Richard en désignant quelque chose de la pointe de son épée. Pacha tourna la tête et poussa un petit cri en découvrant le cadavre du monstre. Elle avança pour mieux voir. Richard ne la suivit pas, sachant ce qu'elle verrait. Une créature de cauchemar coupée en deux, les entrailles répandues sur le sol. La tête difforme du monstre évoquait un croisement entre un serpent et une mandragore. Son corps, bien que couvert d'écailles, ressemblait à celui d'un être humain. Vêtu d'une tunique en peau de bête et d'une longue cape à capuche, la créature n'avait pas de griffes comme il l'avait cru au premier abord, mais serrait dans chaque poing un étrange couteau à trois lames. Des extensions en acier fixaient l'arme au poignet de son porteur pour que les frappes soient plus dévastatrices. Pacha en fut tétanisé de stupéfaction. Richard finit par la rejoindre et baissa les yeux sur les deux moitiés du monstre. D'où qu'il vint et quoi qu'il fût, il saignait comme tout le monde, et une puanteur d'entrailles de poisson pourri montait de la charogne.
« Cher créateur,
souffla Pacha,
c'est un Mouizouis. Que lui est-il arrivé ?»«
C'est évident, non ?» répondit Richard. « Je l'ai tué. » Mais c'est quoi un Mouizouis ?
Comment ça ? Tu l'as tué ? Personne n'a jamais pris la vie d'un Mouizouis.
Dans ce cas, c'est une grande première.
Tu l'as abattu pendant la nuit ?
Oui. Comment le savez-vous ?
Les Mouizouis s'aventurent rarement hors du bois de Hagen. Mais au fil des millénaires, nous avons réuni sur eux quelques rapports, rédigés par des gens qui ont réussi à vivre assez longtemps pour raconter ce qu'ils avaient vu. Les Mouizouis prennent toujours la couleur de leur environnement. Dans la boue, ils sont grisâtres, au soleil, ils deviennent jaunes, tout comme quand ils évoluent sur du sable. La nuit, on peut à peine les voir, puisqu'ils sont noirs. Nous pensons que cette aptitude est une sorte de pouvoir magique. Celui-là étant noir, j'en ai conclu que tu l'avais tué pendant la nuit.
Richard prit la main tremblante de Pacha et l'entraîna à l'écart du cadavre, l'arrachant à sa fascination.
« Que sont ces monstres ?» insista-t-il.
Des créatures qui vivent dans le bois de Hagen. Je n'en sais pas plus. On prétend que les sorciers créèrent des armées de Mouizouis lors de la guerre qui sépara l'ancien monde du nouveau. Mais certains prétendent qu'ils sont envoyés par celui qui n'a pas de nom. Une certitude demeure. Le bois de Hagen est leur royaume, et celui d'autres monstres. C'est pour ça que personne ne vit dans la campagne de ce côté de la rivière. Parfois, les monstres sortent de leur tanière et ils chassent les humains. Ils ne les dévorent jamais, comme s'ils tuaient par plaisir. Les Mouizouis aiment démembrer leurs victimes. Certaines survivent assez longtemps pour raconter ce qui leur est arrivé. C'est la source de nos maigres connaissances.
Depuis combien de temps existe le bois de Hagen et ses monstres ?
Depuis la construction du palais il y a près de 3000 ans. Et jusqu'à ce jour, personne n'avait jamais tué un Mouizouis. Toutes les victimes ont dit n'avoir rien vu ni senti avant que le monstre se jette sur elles. Il y avait dans le lot des sœurs et des sorciers, et leur Han ne les avait pas prévenus. Ils furent aveugles, comme s'ils n'avaient pas eu de pouvoir. Comment as-tu réussi cet exploit ?
Une simple question de chance, mentit Richard, qui ne voulait pas entrer dans les détails. Il fallait bien que ça arrive un jour. Et ce Mouizouis était peut-être un idiot.
Richard, viens avec moi, je t'en prie. Ce n'est pas la bonne façon de défier le palais. Tu risques d'y laisser ta vie.
Je ne défie personne, Pacha. Il s'agit simplement d'assumer mes responsabilités. Si je me dérobais, je ne pourrais plus me regarder en face.
Richard, si le soleil se couche pendant que tu es dans le bois de Hagen...
Vous perdez un temps précieux, Pacha.